Bien, les amis, on va commencer. Bien, s'il y a d'autres personnes qui viennent, bon. On les mettra au piquet, c'est tout, comme d'habitude. Voilà. Alors, donc le rappelez-moi votre prénom.
Gilbert.
Gilbert pose la question. Comment ça se fait que le mois de Tichri, c'est le mois, on pourrait dire, des jours redoutables, des Yamim Noraim, comment se fait-il que c'est le septième mois? Ça pourrait être le premier mois. Surtout que d'un point de vue, on appelle, d'un certain point de vue, on appelle le début de l'année. Enfin, vous avez remarqué, on dit Shana Tova, hein, bonne année. Alors, c'est un peu contradictoire. C'est le septième mois et c'est le début de l'année. Bon, c'est un truc juif, quoi. D'ailleurs, quand j'étais enfant, je comprenais pas, parce que chez nous, on ne disait pas Shana Tova, on disait Agitioué. C'est la même chose, j'étais à l'école laïque, quoi. Et puis, tout d'un coup, à la rentrée, ouais. L'automne va commencer, Shana Tova, Getué. J'ai jamais compris quand j'étais gosse cette histoire. Alors, pourquoi c'est le septième mois? Dans notre tradition, la réalité de ce monde est structurée sur le chiffre 7. Il y a les 7 jours de la semaine. Et le septième jour, c'est Shabbat. Qu'est-ce que ça représente? Alors, le Maharal explique que la structure du monde de Olam Hazeh, la structure, c'est le 7. C'est quoi 7? Les 4 points cardinaux, le haut, le bas et le centre. C'est-à-dire qu'une structure peut être une coquille vide, mais ce monde est structuré sur le 7. Ça veut dire que quelque part, la réalité prosaïque de ce monde aspire un lien avec autre chose. Et les 6 jours de la semaine, c'est-à-dire, ça c'est vraiment la structure, mais le 7 aspire un lien avec autre chose. C'est ce qu'on dit que le Shabbat, c'est Men Olam Haba, c'est un avant-goût du monde futur à l'intérieur de ce monde-ci. De la même manière, il y a les 6 premiers mois de l'année, mais le 7e mois, il y a un éveil de quelque chose. Et c'est ce qu'on a vu les séances précédentes, que la fête de Rosh Hashanah, c'est pas qu'une fête stricte aux juifs. C'est une fête qui a un impact universel, c'est pas que juif. C'est vrai qu'il n'y a que le peuple juif qui transmet. Qu'est-ce que c'est Rosh Hashanah et qui vit Rosh Hashanah? Mais le contenu, l'impact de Rosh Hashanah, c'est pas strictement juif. La dimension de Tshuva, ce qu'on va approfondir un peu ce soir, la dimension de Tshuva, c'est quelque chose de très général. C'est tout le monde est confronté à cette histoire. Donc c'est le 7, c'est l'aspiration à l'intérieur de ce monde-ci à une réalité qui dépasse ce monde-ci. Ça c'est 7. Alors, on va voir des choses sur la tchouva.
Vous avez déjà entendu parler de la tchouva? C'est quoi la tchouva? Ça dit son œuvre.
C'est la réponse.
Comment?
C'est la réponse.
Retour.
Plutôt le retour. Hein.
Je sais. Oui.
Comment ?
Je rigole.
C'était une blague. Alors, la tchouva, c'est le retour. Mais le retour à quoi ? On pourrait dire, on retourne, mais à quoi ? Voilà. Alors, on a vu, il y a 3 semaines, la première séance, il y a 3 semaines ici, on a vu que à Rosh Hashanah, qu'est-ce qui se passe à Rosh Hashanah? Kol ba'e olam ovrim le fanav kevne marom. Tout à chacun dans le monde passe devant lui, avec un L majuscule, kevne marom, comme des moutons l'un après l'autre devant son propriétaire. Donc à Rosh Hashanah, chacun, juif ou non juif, homme, femme, tout à chacun passe devant Hachem. Donc on pourrait dire la tshuva, quelque part, c'est se retrouver devant Hachem. Donc ça paraît abstrait. On va essayer de creuser ce sujet. Voilà. Je vous passe des photocopies de le Maharal de Prague. Donc vous avez constaté que je cite souvent le Maharal. J'ai pas des actions dans le Maharal. En soi, c'est rien de spécial, mais je trouve qu'il aborde des thèmes qui, personnellement, j'ai besoin de la manière dont il aborde ces questions. Bien. Alors, c'est dans un livre qui s'appelle Netivot Olam, le Maharal a analysé un chapitre très long sur la tshuva. Alors, Netivot Olam. Comment? Netivot Olam. C'est-à-dire que c'est les sentiers du monde. Il y a les sentiers du monde. Oui, il y a 36 sentiers dans le monde. La Medvav, Netivot Olam. Et dans ces 36 sentiers, il y a le sentier de la tshuva. Donc là, c'est dans le premier chapitre sur la tshuva. Alors, c'est là que ça se passe. Je vous lis, mais vous ne faites pas de soucis. Hein, je vais lire, je vais traduire, et on va essayer d'expliquer si on peut. Bamidrash, le Midrash, il dit comme ça. Shalou la Chochma, on a posé la question à la Chochma. C'est quoi la Chochma? Comment? La sagesse. Comment?
L'intelligence.
Ouais, l'intelligence. La science.
Réchita Chochma, c'est Irat Hashem.
Alors,
dans le psaume de David, de samedi après-midi. Réchita Chochma. C'est écrit, c'est pas moi, c'est
le roi David. Alors, qu'est-ce que monsieur veut dire par là?
C'est Irat Hashem, c'est la crainte de Dieu.
Non, la crainte, d'accord, mais ça n'explique pas qu'est-ce que c'est Chochma. La première science, c'est la crainte de Dieu. Chochma, c'est la science. La science, bien. Shalou la Chochma, on a posé la question à la science. Roté ma oncho. Le fauteur, quel est son châtiment? Amra, la science, a répondu, Chataim tirdof ra. Les fauteurs seront poursuivis par le mal. Le mal poursuivra les fauteurs. Shalou la nevoua. On a posé la question à la prophétie. Chote Maoncho, le fauteur, quel est son châtiment? La prophétie a répondu, Amra, Anefesh Achotaat Itamut. Je traduis en bon français, l'âme pécheresse mourra. Shalou la Torah, Chote Maoncho, Amra, Yavi Hashem Itkapo. On a demandé à la Torah, le fauteur, quel est son châtiment? La Torah a répondu qu'il amène un sacrifice expiatoire et ça expira sa faute. Sha'alou, la Kadosh Baruch Hu, on a posé la question à Dieu. Chote Maoncho, le fauteur, quel est son châtiment? Amar, il a dit, Yase teshuvah ve'itkaper. Qu'il fasse teshuvah et ça fera expiation. Donc, il y a quatre niveaux. Premier niveau, premier niveau. On a demandé à la chokhma, à la science, quel est le châtiment que le mal le poursuit. Attention, ce qu'on va voir, c'est profond. C'est pas, si je peux me permettre, c'est pas bébé canon. Non, c'est eu égard à chacun d'entre vous, ça veut dire pourquoi je rapporte ce passage, parce que la tchouva, vaguement, on a déjà entendu parler, vous avez déjà entendu parler de la tchouva, quoi. Hein, c'est style j'ai un cousin, il est devenu loubar. Ouais. Non, c'est ça, tout le monde a entendu parler. Qui n'a pas un cousin, même moi j'ai des cousins qui sont devenus loin. C'est pour vous dire. Donc on a une idée. Le terme tchouva, parce qu'on va parler à partir de Rosh Hashanah des 10 jours de tchouva. Okay. Commence à parler de Rosh Hashanah jusqu'à Yom Kippour, les 10 jours de tchouva. Et tchouva, on ne voit pas à quoi ça correspond. Qu'est-ce que c'est la tchouva pour nous, apparemment? Je ne sais pas, moi, quelqu'un, il avait un cousin, il était vraiment style païen, il mangeait pas du tout cachère, je ne sais pas qu'est-ce qu'il s'est fabriqué, il était marié avec quelqu'un qui n'était pas la communauté, vraiment à la cata. Et il s'est passé un truc incroyable. Maintenant, il est devenu super relige. Quand il y a Tata Ginette qui veut lui faire la bise, il dit merci Tata Ginette. Super religieux. Merci, non, je ne fais pas la bise aux dames. Et le même, hein. Ah, il a fait vraiment tchouva, quoi. Voilà, ça c'est l'idée de la tchouva. Et on va voir que ça a à voir avec ça, mais si on veut vraiment creuser, c'est pas. S'il y a une spécificité à ce qu'on appelle la tchouva. Bien.
Il y a un texte là pour monsieur, là. Non, au piquet. Il ne reste pas de texte, là. Une seconde.
Bien. Alors, je reprends. Le Midrash dit, on a demandé à la science, le fauteur, quel est son châtiment. La science dit à Nefesh Ne Chatayim Tirdofra. C'est un verset dans Tehilim qui dit, Chatayim, les fauteurs, Tirdofra, que le mal le poursuive, le fauteur. Oui?
Regardez, il y a plein de chaises là. C'est...
Merci.
Plein de chaises.
Donc, que le mal poursuive le fauteur. Que le mal poursuive
le fauteur. Une seconde, je prends un stylo un peu plus en meilleure santé.
Que le mal poursuive le fauteur. Que le mal poursuive le fauteur. Mais vous pouvez remarquer, on a demandé à la science et on apporte un verset de la Torah. C'est un peu bizarre. Ensuite, Le Midrash continue. Deuxième niveau. On a demandé à la prophétie. Prophétie. Le fauteur, quel est son châtiment ? Le fauteur, quel est son châtiment ? On rapporte un verset qui dit « Anefesh achotahat tamut » L'âme, je traduis exprès avec le genre Don Camillo, l'âme pécheresse qu'elle meurt. Ouais. C'est ça la traduction du verset. Que l'âme pécheresse meurt. C'est bien parti, là. Hein. Là c'est la dame, la première fois que je la vois, elle arrive au bon moment. Hein. Que l'âme pécheresse, qu'elle crève. Voilà, que ça, c'est clair. Bon. Que l'âme qui faute meurt. Sympa, hein. Bien. On a demandé à la Torah, le fauteur, quel est son châtiment ? Torah, comme si ça, c'était pas la Torah. Vous pouvez remarquer, comme si ça, vraiment, on apporte des versets de la Torah. Qu'il amène un sacrifice expiatoire. Expiatoire et qu'il soit expié. On a demandé à Dieu, le fauteur, quel est son châtiment ? On rapporte un autre verset qui dit Tov veyasha Hashem alken yore chataim badarer. Le verset dit. Donc on a demandé à Dieu, deux points, qu'il fasse teshuva. Qu'il fasse teshuva. Comme dit le verset, Tov Yashar Hashem, Dieu est bon et droit. C'est pour cela qu'il enseigne le chemin. Au fauteur. Le chemin, ça veut dire le chemin du retour au fauteur. Alors, le commentaire du Maharal dit, je vais vous le faire oralement, je vous ai passé la photocopie, mais je vais vous le faire oralement. Le Maharal de Prague dit, ce Midrash vient nous mettre en relief, qu'a priori, la tchouva est inconcevable. A priori, la tchouva est le retour est inconcevable. Si le phénomène appelé tchouva existe, c'est quelque chose qui vient directement de Dieu, d'une dimension qui échappe notre simplicité d'abord. Ça, c'est le premier élément. Alors, ça paraît un petit peu bizarre. Parce que pour nous, la tchouva, comme je vous ai dit, la tchouva paraît pas le bout du monde. Pourquoi, pour nos maîtres, la tchouva a l'air d'être véritablement... La tchouva a l'air d'être inconcevable. Mais comme j'ai dit, quelqu'un il a fauté, il arrête, ça y est, c'est bon. Pourquoi ça paraît inconcevable ? Ça va être notre sujet. Donc ça veut dire peut-être qu'on a une conception de ce qu'est-ce que ça veut dire la tchouva qui n'est pas exacte. D'où la question c'est quoi la tchouva ? Alors. Quelqu'un faute, me semble-t-il, que donc il va y avoir Rosh Hashanah, il va y avoir Yom Kippour. Me semble-t-il que nous, on n'a pas conscience de qu'est-ce que c'est une faute. Une faute, c'est quelqu'un a fait quelque chose, ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais ça a quelque chose qui a un impact. C'est un impact. Quelqu'un fait des... Je ne sais pas, il a quelqu'un a je ne sais pas, il a mis à la porte, il a licencié ses ouvriers, il a exploité ses ouvriers, ils sont sur la paille. Il y a des familles qui sont à la masse. Il a mis des familles en déshérence. Il dit, ok, maintenant je fais tchouva. Ok, mais coco, répare. Quelqu'un, il a fait honte à un autre. Il l'a démoli. Il a complètement démoli. On dit, ok. Il y a quelqu'un, une fois, je vais dire quelque chose un petit peu bête. Je ne suis pas tellement rancunier. Je crois que je me connais plus ou moins. Je ne suis pas tellement rancunier. Mais il y a des gens qui m'ont fait du mal. Ça arrive, des gens qui m'ont fait du mal. Il y a quelqu'un qui m'a fait du mal. Vous voulez savoir qui? Je ne le dirai pas. Vous voulez savoir? En tout cas, je ne veux pas savoir. En tout cas, il y a quelqu'un qui m'a fait du mal. Quelques temps après, il m'a appelé pour travailler avec moi. Il ne s'était pas rendu compte du mal qu'il m'a fait. Je lui ai dit, tu sais, tu es une des rares personnes qui m'ont fait beaucoup de mal. Il m'a dit, je te demande pardon. Tu m'étais taré ou quoi? Tu es taré? Voilà, je te demande pardon. Voilà, je te demande pardon. Mais je vais te buter, moi. Non, on vous a... excusez-moi. La plupart, vous me connaissez, donc ça va. Mais t'es taré, quoi, tu me demandes pardon. Mais ça suffit pas. Tu m'as bousillé. Non, ça suffit pas, tu me demandes pardon. Non. Il me dit, et lui, alors il était un peu connaisseur, il m'a dit, oui, mais c'est écrit dans le Talmud que si on demande pardon et que la personne ne pardonne pas, c'est lui qui faute. Je lui ai dit, plac ! Salaud. Demander pardon, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une rigolade ou quoi? Quelqu'un, il fait du mal. Mais répare! Comment on peut réparer? Comment on peut réparer? Mais c'est hyper compliqué. Il y a des gens, je pense que quand je parle de moi, je pense que je ne suis pas le seul. Il y a des gens qui font du mal à d'autres. Quelqu'un fait du mal. Il dit, voilà, je fais de choix. Maintenant, quelqu'un m'a fait du mal, maintenant il est devenu religieux. Salaud. T'es malin, maintenant tu vas, voilà, ici à Moadon, Rosh Hashanah, Yom Kippour. Salaud. Je sais pas, c'est une rigolade ou quoi? La Tchouva, c'est très complexe. C'est très complexe. Comment on peut réparer quand on a fait du mal? Quel que soit le contenu qu'on met dans le mot du mal, mettez ce que vous voulez d'en faire du mal. Je pense chacun et chacune d'entre vous, vous avez votre conception, qu'est-ce que c'est faire du mal. Mais comment on peut réparer? Je te demande pardon. T'es taré ou quoi? T'es complètement taré. Mais
c'est déjà le début. Après, il répare peut-être, mais après, c'est le début.
Non, avec moi, ça marche.
Alors, comment on fait? Ben non, il faut bien démarrer.
Comment?
Il faut bien démarrer.
Pleure. Hein? Pleure très. Rampe par terre. Mais c'est quoi?
C'est Boujna, ça.
Comment?
C'est Boujna, ça. Ah,
c'est
Boujna.
C'est quoi? C'est un copain à vous? Ouais. Non, mais non, vraiment. Je sais pas pourquoi ça vous fait rire. Ça me fait pas rire. Mais c'est la tchouva, c'est réparé. La tchouva, c'est réparé. Mais quelqu'un a fait du mal. Quelqu'un a fait du mal. Des fois. Même on ne se rend pas compte du mal qu'on peut faire. Alors, quelqu'un dit, voilà, oui, tu sais, ça va être Yom Kippour, je te demande pardon. Schlack, salaud, dégage, qu'est-ce que ça veut dire, je te demande pardon? Mais viens, montre vraiment que ça te fait mal, ce que tu m'as fait. Ah non, je te demande pardon, pourquoi tu ne me pardonnes pas? Mais je vois bien que pour toi, ça ne te fait rien. Tu ne répares pas. Comment Comment réparer? Comment réparer? C'est ça le sujet. Quelqu'un fait du mal. Le mal, c'est de la destruction. Quelle que soit cette destruction. Il y a plusieurs modes de destruction. Il y a des destructions concrètes. Quelqu'un peut casser quelque chose. Quelqu'un peut tuer. Ça, c'est quelque chose qui est quantifiable. Il y a aussi du mal spirituel. Il y a plusieurs types de mal. Donc comment on peut réparer? C'est ça, faire tchouva. C'est réparer. C'est réparer comment? Alors, le Midrash, il dit, et le Maharal relève. Le Maharal relève. Qu'a priori, c'est pas possible de faire tchouva. Comment c'est possible de faire tchouva? A priori, c'est pas possible. Alors ça, je le rapporte comme ça, je sais que ça passe pas. Je sais que ça passe pas, parce que vous êtes convaincu que vous avez vu dans Actuji que la tchouva est toujours possible. Et là, notre sujet, c'est l'impossibilité de la tchouva. Donc c'est encourageant. J'enregistre pour que mon épouse elle écoute. Elle va me dire, ben voilà, t'es encourageant, toi. Voilà. C'est encourageant, tu t'encourages les gens, vraiment. Moi, je ne fais rien, je ne fais que rapporter le Midrash. Moi, je suis innocent. Voilà. Comment?
L'idée, c'est peut-être de ne pas faire de mal, a priori.
Oui, mais nous, on n'est pas comme ça. Non, justement, alors regarde, regardez. Alors, c'est ça.
Alors,
regardez, c'est ça le sujet. La première dimension, on demande à la science. On demande à la science, le fauteur, c'est quelqu'un qui a fait du mal. Mettez le contenu du mal, ce que vous voulez. Quelqu'un qui a fait du mal, c'est quoi? Qui a détruit quelque chose. Quel est son châtiment? Un verset dit, « Chatayim tirdofra ». Le fauteur sera poursuivi par le mal. Alors, le Maharal de Prague, je le cite souvent, il a vécu pratiquement tout le XVIe siècle. Hein, c'est un maître d'il y a 500 ans. Et il donne une explication prophétique là-dessus. Il explique que, je prends les mots du Maharal, Aret o chisaron baolam, pour les personnes qui hébraïsante, regardez, c'est là. Vezé, Vama, Shalou la Chochma, on a demandé à la science, Chotema Oncho, le fauteur, quel est son châtiment? Les Shiva, la science a répondu, Chatayim Tirdofra. Vezé, c'est-à-dire, qui a Chet, au Chisaron Baolam, la faute est un manque dans le monde. Ce n'est pas légitime qu'il y ait un manque dans le monde. Ce n'est pas légitime qu'il y ait un manque dans le monde. C'est pour ça que le fauteur sera rattrapé par le mal qu'il a fait. Il disparaîtra. Ça, c'est le premier niveau. Le fauteur disparaîtra. Qui en raouille, ce n'est pas légitime qu'il y ait du manque, c'est-à-dire du rat dans le monde. Ici, cette phrase du Maharal explique des choses extrêmement profondes. Comment se fait-il qu'on dit qu'on a demandé à la science, qu'en vérité, pour répondre, mettre dans la bouche de la science, on rapporte un verset des psaumes de David? Ce n'est pas la science, c'est les psaumes de David. Qu'est-ce que ça a à voir? Ici, Dans les textes de notre tradition, il y a les textes prophétiques et ce qu'on appelle les hagiographes, les ktuvim. Les ktuvim, ce ne sont pas des prophètes qui les ont écrits, mais des gens qui ont Ruach HaKodesh. Ruach HaKodesh, c'est-à-dire inspiré par l'inspiration divine. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on regarde de manière macroscopique l'histoire de l'humanité, il y a eu des choses au niveau collectif, au niveau individuel. Prenons au niveau collectif. Il y a eu des empires barbares, totalitaires, atroces. Un moment, tous ces systèmes se sont écroulés. Tous ces systèmes se sont écroulés. Il n'y a pas, le Talmud dit, les barbaries ne sont jamais continues. Un moment, elles s'arrêtent. Les barbaries, il y a des moments de barbarie. Pourquoi? Parce que l'homme est libre. Si l'homme, au niveau individuel, au niveau collectif, veut faire des exactions, il peut le faire. Vas-y, coco. Mais un moment, effacé. Pourquoi? Ce n'est pas légitime qu'il y ait du mauvais dans le monde. Ça, c'est au niveau collectif, on peut le comprendre. Au niveau collectif, prenons un exemple. On se demande comment se fait-il. Regardez, par exemple, le nazisme. Le nazisme, ça a duré TTC 12 ans. C'est un truc de ouf. Les nazis ont voulu faire un Reich pour 1000 ans, un empire pour 1000 ans. Résultat, ils ont mis la panique, ils ont détruit. 12 ans, game over. Fini. C'est incroyable. Vous n'êtes pas d'accord? Il y a des traces. Mais disons, les exactions en tant que telles, se sont terminées en 1945. Après, il y a autre chose. Le bloc communiste, ça a commencé en 1917, ça s'est terminé, grosso modo, en 1991. Mais ça s'est terminé en 3 jours. Personne n'a compris. En 3 jours, ce qu'on croyait, pour ceux qui ont vécu dans les années 80, à l'époque de Brejnev, etc., on se disait, mais ça allait être éternel. C'était boulonné, absolument machin. Fini. The end. Fini. Tous les historiens, maintenant, ils vont écrire des trucs. Comment c'est possible? 3 jours, ça s'est arrêté. Il y a eu un petit putsch en 91. Un petit putsch. Ça a duré quelques heures. Paf, paf, c'est fini. On passe à autre chose. Incroyable. Comment c'est possible? L'homme est libre. On peut faire des exactions. Mais à un moment, évincé. The end. Ça, c'est ça, la science. Ça veut dire, si tu regardes au niveau global, mais nous, on est des êtres humains, on ne peut pas avoir un regard vraiment scientifique sur les choses. C'est ça, les versets écrits par Ruach HaKodesh, David Ameller, le roi Salomon. C'est une science qui embrase un regard global sur les choses. Le mal, les fauteurs, seront poursuivis par le mal. Un moment, ils disparaissent. Ça, c'est au niveau collectif, au niveau individuel. Maintenant, on demande à la prophétie. Le fauteur, quel est son châtiment? On voit dans la Torah que certaines fautes sont condamnables par le tribunal des hommes. Certaines fautes sont condamnables par le tribunal des hommes. C'est-à-dire, il faut enlever. Cette personne n'a pas de place ici sur Terre. Sur Terre, elle n'a pas de place. Dégage. Ça, c'est pas... La première explication, c'est globalement, ça prendra son temps, à un moment T, évincé. Deuxième dimension, la prophétie, non, c'est beaucoup plus expéditif. Beaucoup plus expéditif. Troisième dimension, on demande à la Torah qu'il apporte un sacrifice, il fera expiation. Le Maharal explique. La dimension de la Torah a été donnée aux hommes. Qu'est-ce que ça signifie ? C'est que la Torah est adaptée au délire de l'homme. Vous avez dit, mais c'eût été peut-être meilleur que l'homme ne faute à point, accent circonflexe T. C'est pas comme ça que ça se passe. On fait tous notre expérience, on fait tous notre chemin. Et quand on fait ces expériences, eh ben, des fois, on se plante. C'est comme dit le verset dans l'Ecclésiaste, donc Kohelet, Adam, en sadik, baaretz, asher yasetov velo yecheta. Un homme, quand bien même serait-il juste un tzaddik, c'est impossible qu'il ferait le bien et qu'il ne faute pas. Impossible. Donc la Torah qui est, s'adapte à l'homme, elle nous apprend quoi faire. Quoi faire en apportant un sacrifice. Le Midrash dit, mais Akadosh Baruch Hu intervient. Dieu intervient. Non, il intervient. Il y a une dimension nouvelle. Cette dimension, c'est la dimension de la teshuva. On ne sait pas encore qu'est-ce que c'est la teshuva. Nous, on a vu, dans la première partie, que la teshuva, c'est pas possible. La teshuva, c'est pas possible. Comment tu peux réparer, tu as fait du mal. Quatrième dimension, on demande à Dieu. Il dit, si, tu peux faire teshuva. Qu'est-ce que c'est la spécificité de la teshuva? C'est quoi la spécificité de la teshuva? Alors, regardez... Je vous ai passé une photocopie. Et cette photocopie, il y a aussi une deuxième page. Et il va rapporter un autre midrash. Je vous passe. Alors j'en prends pour moi, ce sera meilleur. Le midrash, c'est là. Avant de voir le Midrash, regardons les deux phrases que le Maharal dit dans la première photocopie. Il va nous expliquer qu'est-ce que c'est la Tshuva. Donc, je synthétise la première partie de notre étude. Première partie de notre étude, c'est que, a priori, quelqu'un a fauté, c'est foutu, c'est sympa, hein? Comment peut-on réparer? C'est foutu, tu as fait du mal, comment réparer? Première étape, c'est ce que nous voyons avec ce premier midrash, qu'a priori, c'est foutu. Dieu dit, fais tchouva. Mais comme on dit chez nous, vos isdos. Ouais, c'est quoi? C'est quoi la chose? C'est quoi? Le Maharal va synthétiser en quelques mots qu'est-ce que c'est la chouva. Regardez. Les lignes là. Aval Hashem Yitbara Omer Shigasek Shuva. Mais Dieu dit qu'il fasse te chouva. Qui a choté Asher Yeshlo Lev Nishbar Venikke Alcheto ou Yitbara Mekablo Bishvilze Vezeu Midat Hashem Yitbara. Mais Dieu dit qu'il fasse teshuva. C'est quoi? Le fauteur, s'il a lev nishbar venitke. Traduisons lev nishbar venitke, les hébraïsants ou hébraïsantes.
Un cœur brisé.
Un cœur cassé. C'est plongé, c'est.
Non, il a le cœur brisé.
Et nitke.
Et angoissé de cette.
Il a un cœur brisé, hein, un bonbon là. C'est... Ah là là. C'est bon. Comme son nom l'indique, les bonbons, c'est bon. Lev nishbar venitke. Quelqu'un qui a un cœur nishbar, nishbar, chover, c'est brisé. Un cœur brisé, nitke, pilé. Quelqu'un qui a un cœur brisé, épilé, Dieu l'accepte. Donc ici, le Maharal nous a... le Maharal nous a synthétisé qu'est-ce que c'est la tchouva. Moi, je n'aurais pas su. Il nous explique. Qu'est-ce que c'est ? Celui qui a un cœur nishbar, brisé, et nitqué, et pilé, Dieu l'accepte. Ça, c'est ce qu'on appelle tchouva. Et il va rapporter le Midrash qu'il va développer dans la suite. Regarde, Bémidrash. Il y a un verset dans les psaumes de David qui dit comme ça. Parce que vous savez que David avait des grosses difficultés. Très grosses difficultés avec Bathsheba. On avait étudié, il y a une petite année ici, pour des personnes qui étaient ici, on avait étudié le sujet de Bathsheba. Et... il était complètement brisé. C'est ça ce qu'il dit. Lev nishbar, zivre lokim ruar nishbar. Le verset dit comme ça. Les sacrifices de Dieu, les offrandes de Dieu, ruar nishbara, les souffles brisés. Le verset continue. Lev nishbar venitke, elokim lo tivze. Un cœur brisé et bas, qui est bas, Dieu ne dénigre pas. Il rapporte. Rabbi Yoshua ben Levi. Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Rabbi Yoshua ben Levi dit. Kama gedolim ne mouche rouar. Combien grands sont ceux qui ont le souffle bas. Chez Bezman, chez Bet Amigdash, quand il y a le temple, Adam evi ola, sera ola beyado, mincha sera mincha beyado. C'est-à-dire, quand il y a le temple, on peut apporter plusieurs sortes de sacrifices. On peut apporter une offrande à un animal qui sera entièrement brûlé sur l'autel. On peut apporter un sacrifice expiatoire, une offrande de farine, etc. Tout ça, c'est ce qu'on appelle des zvachim, des offrandes. Mais le verset dit, Zivre Elokim, c'est un pluriel. Roi Nishbara, celui qui a le souffle brisé, c'est comme s'il avait apporté toutes les offrandes au temple. Donc il n'y a pas le temple là aujourd'hui. Eh bien si. Quelqu'un qui a le souffle brisé, qui a le souffle pilé, qui a le souffle bas, c'est comme s'il avait construit le temple et apporté toutes les offrandes. Comme s'il avait apporté toutes les autres. Alors, vous allez me demander, c'est quoi avoir le souffle bas ? C'est quoi ? C'est quoi cette apologie de l'angoisse et de la culpabilité ? C'est quoi ? Est-ce que c'est l'apologie de la culpabilité ? C'est quoi ? De quoi il s'agit ? Alors, avec un groupe d'élèves, on a travaillé ça, et il y a des idées qui sont venues que j'aimerais voir avec vous à partir... Bon, je n'ai pas apporté la suite, mais bon, je vous ai rapporté grosso modo. Grosso modo, le concept de tchouva, c'est un souffle brisé, un souffle bas et brisé. Et ça, c'est Rosh Hashanah, on a déjà vu ça il y a quelques semaines, c'est ça Rosh Hashanah, c'est ça le son du shofar. Le son du shofar, c'est cet ébranlement intérieur. Ça, c'est le shofar, c'est cette brisure. D'ailleurs, ça s'appelle, Rosh Hashanah est appelé dans la Torah, Yom Teruah. Un jour de teruah, qui veut dire soufflerie, qui veut dire teruah, ça veut dire de brisure. Un jour de brisure. Mais de quelle brisure s'agit-il ? Alors regardez, on va voir un passage de Maïmonide qui va nous expliquer qu'est-ce que c'est la tchouva en d'autres termes. Peut-être ça va nous aider à voir un peu. Alors, ce qu'on va voir, c'est un passage du Talmud. C'est un passage du Talmud rapporté par Maïmonide dans les lois de Tchouva. Maïmonide a écrit dans son livre de lois une section qui s'appelle les lois afférentes à la Tchouva. Il y a des mitzvot de la Torah, de la même manière qu'il y a des mitzvot, je ne sais pas, de faire birkat Amazon, de mettre une mezouza, il y a plusieurs commandements dans la Torah. Il y a une mitzvah qui s'appelle faire teshuva. Et cette mitzvah de faire teshuva a des détails légaux, comme on va voir un élément. Alors, souvent, quand on parle du Talmud, ça a trait à des histoires de mœurs. Ce n'est pas que moi, je sois particulièrement obsédé sur le sujet. Ce n'est pas de ma faute. C'est un cours de Talmud, donc ça aborde souvent ces sujets. Ne croyez pas que je suis focalisé outre mesure sur ce sujet. C'est le Talmud pour expliquer. La Tchouva abordera le sujet que nous allons voir. Ce n'est pas de ma faute, ce n'est pas moi qui ai choisi. Donc, deuxième chapitre des lois de la Tchouva. Il rapporte le passage du Talmud dans le traité Yoma, Daf Pevav Amud Bet 86b. Ezoï Teshuva Gemura. Qu'est-ce que c'est la Teshuva au sens fort? C'est quoi la Teshuva au sens fort? La véritable Teshuva. On peut dire, ça c'est la Teshuva. C'est quoi? Zé Sheba Leyado Davar Shavar Bo. Quelqu'un se retrouve confronté à la chose spécifique qu'il avait fauté une fois. Il avait fauté une fois. Et donc maintenant, il se retrouve exactement dans les mêmes circonstances. Vevshab yado la soto. Il a complètement la possibilité de refaire cette faute. Ou piresh velo asa mipnat ateshuva. Il s'est arrêté. Il n'a pas fait la faute. Par teshuva. Lo meira velo mikashalon koar. Ni par crainte, ni par incapacité physique. On va reprendre ça. Quetzal, le Talmud rapporte l'exemple suivant. Are sheba alisha be'avera. Un homme est allé avec une femme de manière prohibée par la Torah. Ok, bon. Oulah harzman, le temps passe, venit yachedima, il se retrouve seul avec elle. Ve'u omed ba'avato ba, il l'aime comme au premier jour. Il a le même amour que la première fois. Ou Bekoar Goufo, il n'a pas encore été frappé par l'andropause. Là, ça veut dire il a encore des capacités. Ou Ben Medina Shavarba, il rajoute Maïmonide, il est dans la même ville où il avait fauté. Do you understand? Qu'est-ce qu'il rajoute là? Non, c'est à Venise comme la première fois, vous avez compris. Non, ça veut.
Quelle ambiance, quoi.
Non, ils se retrouvent dans la même ambiance. Non, parce qu'ils étaient à Venise, bon, il y avait l'ambiance, d'accord. Mais après, ils se retrouvent. Dans un ascenseur à la Défense, le mec, il a une réunion du staff dans 5 minutes. Et elle a une réunion avec son DRH. Bon, c'est plus la même ambiance, vous comprenez. Donc, là, mais là, il dit non, ça Venise comme la première fois. C'est la même ambiance, hyper sympathique, le soleil se couchait. Il y avait les gondoliers. Santa Maria, la 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 la. Il y a l'ambiance. Bon, on se comprend. Medina chez Avarba, au Piresh, et s'arrête. Vélo avare, et il n'a pas fauté. Zéou bal teshuva gemora. Ça, c'est ce qu'on appelle la fête teshuva. Vehou chez Shlomo Amar, c'est ce que le roi Salomon a dit dans l'Ecclésiaste. Zechor et borecha beme bachorotecha. Souviens-toi de ton créateur quand tu étais jeune. C'est-à-dire que un vieux, il voit un enlacina, évidemment, où est-ce que vous voulez qu'il aille. Mais quand tu es jeune, tu fais le con. Non ! C'est quand tu as possibilité de faire l'imbécile ! C'est là, il y a la tchouba. Okay. Alors reprenons les mots de même. Reprenons les mots, et c'est là où notre étude va commencer. Je reprends. Il a dit, qu'est-ce que c'est la véritable tchouba ? Je reprends le début. Qu'est-ce que c'est la véritable tchouva? La tchouva au sens fort. Zé, sheba, le yado, davar, shavam. Il se retrouve confronté à ce qu'il avait fauté la première fois. Vevcha, beado, la soto, il a aussi la possibilité de le faire. Ou piresh, il s'arrête. Velo, asa, mipna, tchouva. Pourquoi il s'arrête? À cause de quelque chose qui s'appelle Teshuva. Lo meira velo mekishlon koar. Pas par crainte, ni par défaillance. Alors, pourquoi Maïmonide dit pas par crainte, mais par Teshuva? C'est quoi? Pas par crainte. Il nous dit pas quelle crainte. Ça veut dire pas par crainte. Qu'est-ce qu'il veut dire pas par crainte? Pas par crainte. Pourquoi il a dit? Au contraire, quelqu'un qui s'arrêterait, c'est que tout d'un coup, il a peur de Dieu, ou il a peur de la faute, il a peur des châtiments. Il a réalisé qu'il y a une peur du châtiment. Il dit non, pas par crainte, mais par tchouva. C'est quoi la différence, mes amis? Alors là, voilà, ça, c'est là où ça commence.
Oui. La teshuva avec crainte tue la teshuva.
Pourquoi?
Parce que si on ne fait pas quelque chose de peur d'eux, ça veut dire que ce que l'on ne fait pas n'est pas en soi suffisant pour exister.
Ne pas céder
par crainte. C'est moins bien que par conviction personnelle.
D'où vient l'idée à Maïmonide de dire pas par crainte? Quelle idée farfelue il a eu de mettre ça? Il aurait enlevé ce mot, ça aurait été aussi bien. Moi, si je fais une édition nouvelle de Maïmonide, j'enlève ce mot.
Non,
il me gêne.
Non, Jean.
Non, il vous plaît. Pourquoi? Pas par crainte.
C'est comme la même chose, respecter ses parents, ce n'est pas par crainte, c'est respecter ses parents de manière innée.
Là, il y a une introspection.
Là, c'est la crainte de Dieu ou c'est la crainte d'autre chose?
Regardez, je ne sais pas. Regardez, ici, jusque-là, c'était pas mal, mais ce n'était pas le principal. Là, maintenant, c'est vraiment du Talmud. Maintenant, ça devient vraiment talmudiste. Je ne dis pas que ce n'est pas bien ce que vous dites là. Je ne dis pas. Hein. Seulement, je n'ai pas bien assimilé. Regardez, ici, Maïmonide, c'est très spécial comme il a rédigé ces choses. Il a dit, il est confronté dans les mêmes circonstances. Normalement, c'est cuit. C'est cuit. Pourquoi il ne continue pas? Pourquoi il ne continue pas? Pourquoi? C'est une question. Il l'adore. c'est pas qu'il se retrouve 50 ans après. Parce que là, bon, non, t'es resté bien quand même. Non, t'es encore, je te reconnais, enfin, ton sourire, quoi. Je te reconnais, oui. Je t'aurais pas reconnu comme ça, vraiment, parce que, bon, les années ont passé. Non, il la reconnaît. Il la reconnaît. Et il est attiré par elle. Et c'est réciproque. Et il y a la même ambiance. Je vous la refais pas. Je vous épargne. Il y a l'ambiance, comme vous voulez. L'ambiance comme vous voulez. Celle que vous aimez, l'ambiance. Il y a l'ambiance très, très bien. Et il est bien détendu, elle est bien détendue. Mais, par contre, stop. Pourquoi ? Maïmonide dit, c'est pas parce que ce n'est pas parce qu'il est défaillant, pas défaillant. Et c'est pas par crainte. Et pourquoi tu veux qu'il s'arrête, sa période popée ? C'est bien par crainte.
Parce qu'il s'est détaché de la situation.
Freud, c'est plus bébé, ça c'était avant Freud, on n'est pas... Enfin, c'était avant...
Mais c'est une notion psychologique.
Je sais, mais j'aimerais bien la connaître,
parce
cette
que
histoire.
Oui.
Peut-être que cette personne-là, une fois qu'elle a fauté, une première fois, elle a fait tchouba, elle s'est rendue par crainte, et cette fois-ci elle retombe sur la même situation, et là on nous précise ça... pour nous dire que il va pas tomber cette fois, pas par crainte, parce que la première fois c'était peut-être ça qu'il avait empêché de faire tchouva avant la faute.
Oui. Il s'est rendu compte.
J'ai pas compris. À un moment il s'est arrêté.
C'est ça. Non mais en gros, enfin, moi de ce que je comprends, c'est que cette fois il nous précise que c'est pas par crainte, parce que la première fois où il est tombé dans la faute, a posteriori de cette faute-là, il a fait tchouva par crainte.
D'accord. Et il ne s'attendait pas à se retrouver avec elle.
Ah, parce qu'il a déjà été puni une première fois.
Non, pas forcément.
Non, mais c'est
il a changé quelque chose.
Oui, je ne sais pas quoi.
Oui, mais enfin, maintenant, ça c'est le test de la tchouba. Mais pourquoi, qu'est-ce que ça gênerait que ce serait par crainte ? Vous vous dites par conviction, la seule conviction qu'il a, c'est d'aller avec elle.
Mais la crainte, c'est un instant, en fait. Quand on agit sous la crainte, c'est pas une décision propre à soi-même. Quand on agit sous la crainte ou la peur, c'est instinctif. Mais c'est pas une décision qu'on prend.
Mais la plupart des gens qui ont des convictions... Prenons un exemple. Par exemple, vous avez le... Bon, maintenant, on sait plus qu'est-ce que c'est les socialistes. Ça n'existe plus. Mais disons, il y a une époque, disons... On parle d'un temps qu'on est moins de 20 ans, on ne peut pas connaître, ouais, où il y avait des socialistes. Les socialistes, c'était très rigolo. Ça veut dire, quand Mitterrand, en 81, il a été élu, il y avait, moi je me souviens, j'étais dans le train Strasbourg-Paris, à 20h, il y a eu les résultats. Dans le train, tout le monde s'est embrassé. C'était la fête. Ensuite, à Bastille, tout le monde était à Bastille. C'était... incroyable, c'était la fête au village, c'était les lampions, c'était le grand espoir. Et après, on s'est rendu compte, les ministres socialistes, des malversations, et des magouilles, et des trucs, et les plus classes, ceux qui ont fait les plus grands scandales, et des machins, et des bidules. Ça veut dire, on a des idées. Excusez-moi, quand vous dites la conviction, ça me fait bien rigoler. Tout ça pour dire, c'est quoi mon blabla, remember, c'est que les convictions, face à la réalité, tu les mets à la poubelle. C'est quoi la conviction ? Le mec, il a envie de cette nana ! Excusez-moi l'expression, c'est pas très cachère de dire comme ça, mais c'est comme ça ! Et c'est réciproque ! Et il l'aime ! Et ils sont à Venise ! Et il y a machin ! Et il y a bidule !
Les juifs ?
Et les gaules.
Elle se convertit, c'est tout.
Non, arrête la conversion, c'est la foutaise. Mais non, j'en sais rien, c'est pas le sujet la conversion. C'est pas le sujet là maintenant, il faut pas se couper. Voilà, c'est ça, il s'est trompé de chambre, et c'était à l'hôtel Sofitel à New York, il s'est trompé, tac.
C'est pas mal quand même.
Alors, qu'est-ce qui fait qu'il s'arrête ? Quelle conviction ? Il n'y a pas de conviction. Les faits sont, comme dit l'autre, les faits sont tenaces. Qu'est-ce qui fait qu'il s'arrête ? Il n'est pas par crainte. Pourquoi Maïmonide n'est pas par crainte ? Ça perd les popettes.
Peut-être qu'il parle de crainte de représailles de la justice. Mais pas de crainte de Dieu.
Non.
Mais la crainte, c'est générique. Ça a l'air d'être même la crainte de Dieu. La crainte de quelque chose. Il n'a même pas la crainte de quoi ? Comment il a écrit ce texte-là ? Il faut enlever ce mot. Moi, je pense que c'est une erreur des éditeurs.
C'est une provocation, ça.
Comment ?
Provoquer. On vous connaît maintenant.
La crainte du Dieu.
C'est la crainte.
Ah, bah oui.
Un témoignage qui est donné sous la contrainte, il n'est pas accepté, par exemple. Et là, ça peut être pareil quelque part avec la tchouva, quoi. C'est cette idée que s'il fait sa tchouva par la crainte de quelque chose d'autre que sa propre tchouva, finalement, ça, c'est pas sa propre parole qui parle. C'est que ça lui, oui. Lui est contraint.
Oui. Oui, là.
Oui, mais c'est plus pas.
C'est vrai, parce qu'il s'est rendu compte
que. J'ai dit la.
D'accord, ok.
Je comprends pas. Est-ce que vous dites une bêtise ? Manger cachère ?
Oui.
C'est
pas cachère. Pas cachère. Pas cachère. Pas cachère. Parce que. Parce que c'est écrit dans la Torah qu'on n'a pas.
Oui, mais.
Non, mais la conviction. Moi. Vous me demandez pourquoi on mange kasher ? J'en sais rien, parce que c'est écrit dans la Torah, un juif il doit manger kasher. Moi j'en sais rien pourquoi. La conviction, c'est que je suis convaincu. Je ne suis pas forcément convaincu. Dans la vie juive, on fait plein de choses qu'on fait. Le matin, on se lève, on met les téfilines. Est-ce que tu es hyper convaincu qu'il faut mettre les téfilines ? J'en sais rien, moi. Pourquoi ? Je ne sais même pas pourquoi je les mets, mais je les mets.
C'est pas une sorte de
conviction. C'est compliqué, la conviction.
C'est juste une sorte de
plein de choses qu'on. Dans la vie juive. Si on faisait les choses par conviction, on ferait vraiment pas grand-chose. Est-ce que moi, j'ai envie à Rosh Hashanah d'aller écouter le chauffard ? J'ai plutôt envie d'aller faire autre chose, d'aller me balader à la campagne. Je ne vais pas écouter le chauffard parce que j'ai une conviction qu'il faut que j'écoute le chauffard. Non, ça va me faire guili-guili dans mon âme, j'en sais rien, moi. Je ne sais pas.
C'est une métamorphose.
Je ne sais pas.
Le mec. Il s'est pas métamorphosé.
Comment ?
Non, je ne sais pas. Non,
oui, oui.
Il y a une métamorphose spirituelle du fait qu'il craint. C'est une autre personne peut-être. Une autre...
C'est quoi ce terme de crainte ? Oui, Fragat, tu voulais dire ? Ou tu as dit deux exemples ? Oui.
C'est-à-dire que enfin, je pense qu'il ne nous précise pas par crainte. Ça va aussi avec l'autre partie du texte. Il nous dit que c'est dans la même ville, dans la même situation. Le fait que ce ne soit pas par crainte. Ça nous montre qu'il a appris, de sa première erreur et que ça nous montre un aspect d'Atchouba, si c'est ce qu'on veut nous montrer, que l'Atchouba, c'est de ne pas retomber, c'est d'apprendre de son erreur pour ne pas retomber dans la même situation dans laquelle il était, pas retomber dans cette faute-là. Donc, ce sera pas.
Mais regarde, par exemple, quelqu'un qui fume, moi je ne sais pas, je ne fume pas, mais quelqu'un qui fume, il ne peut pas s'arrêter, un vrai fumeur. Il ne peut pas s'arrêter. Quelqu'un qui a une addiction, ici c'est comme une addiction. Tu as envie de fauter, tu te remets dans les mêmes conditions. Je ne peux pas. Qu'est-ce qui va faire qu'il s'arrête ? Qu'est-ce qui va faire que quelqu'un s'arrête ?
Ben, il dit stop.
Elle a un sourire qui le désarme, voilà. Elle a un sourire qui le désarme, elle sourit, ça y est, c'est foutu. Il ne fallait pas que tu souris. Don't smile. Smile. Maud Cambronne. C'était ça qu'il ne fallait pas qu'elle fasse. Alors, qu'est-ce qui va sortir ? Il ne fallait pas que tu souris. Elle a souri. Il ne fallait pas. Qu'est-ce qu'il va faire qu'il s'arrête ? Alors moi, j'aurais dit, parce qu'il a crainte de la faute, la crainte de Dieu. Maïmonide, non, c'est pas bon ça. Ça, c'est incroyable quand même. C'est bizarre, hein ? Les choses paraissent. C'est bizarre. Alors, regardez, je propose la chose suivante. Oui ?
Et si c'est pas juste pour ne pas être exclu ? dire que la quantité de châtiment, dont un qui est la peine de carette, qui est une des plus graves, et il n'y a pas forcément de tribunal qui va prononcer le châtiment. Je veux dire que le châtiment, il peut être juste ressenti. Donc, le fait de fauter, il peut à ce moment-là se sentir exclu, se sentir en dehors de la communauté.
Mais ça, c'est une forme de crainte. Hein.
Non, c'est pas une forme de crainte. Non, c'est pas une crainte. C'est pas une crainte, c'est juste un sentiment de ne plus être dedans.
Oui. Mais quand tu es en face d'un désir,
c'est parce que c'est lui qui a changé.
En face d'une pulsionnalité.
Donc c'est du...
En face d'une pulsionnalité.
Mais il a changé, c'est lui qui a changé en fait. C'est lui qui est plus même, la situation est la même.
C'est reconnaître la liberté de dire non.
Non, c'est différent.
C'est comme quand on doit arrêter de fumer. Moi, je suis addict à la cigarette. Oui. Okay.
Il n'est plus le même.
Okay. Donc, j'ai envie de cloper, j'ai envie de cloper. En fait, je ne vais pas le faire parce que je sais, j'arrive à voir un petit peu plus loin. Et je sais que si celle-là, je ne la prends pas, alors je vais avoir un bénéfice. Je n'ai pas la crainte de quelque chose, j'ai l'espoir d'un bénéfice futur.
Ah, c'est pas mal ça.
C'est pas la même chose. Donc, c'est pas la crainte d'un châtiment, c'est.
Oui, mais quand t'as mal parce que t'as envie.
Là, j'ai envie, mais je sais que si je fais un petit effort.
Mais t'as l'impression que si tu fumes pas, tu vas crever.
Ah, non, je fume. Dans ce cas-là, oui. Mais là, oui.
Là, tu sens, là, ça te prend. Ça te prend. Il faut que tu fumes. Tu sais qu'il ne faut pas que tu fumes. Qu'est-ce qui va faire que t'arrêtes? C'est pas que t'as envie, t'as besoin.
Le fait justement de combattre cette propre pulsion et d'être plus fort que cette propre pulsion.
Ouais, mais t'es jamais plus fort.
C'est pour ça que je le fais. En tout cas, j'essaye.
Non, jamais fort. Alors regardez, moi je propose dans ce mot de crainte de Maïmonide. Je le propose comme ça. Cette histoire de Maïmonide, c'est une genre d'addiction. Ça veut dire, il ne fallait pas qu'ils se retrouvent ensemble. S'ils se retrouvent à 500 km, ça marche. Ils se retrouvent ensemble, ça ne peut pas marcher. Et ils se retrouvent ensemble. C'était ça qu'il ne fallait pas. Ils ne l'ont pas cherché. Il s'est trompé de chambre. Merde. Elle est là. Oh, je t'attendais. Ah non. Ah oh bah oui. Il fallait pas. Comment il va s'arrêter? Comment il peut s'arrêter? Oui.
Il le fait, puis il fait Teshuva.
Bah oui.
Il y a un qui pour. Ouais, c'est vrai, bon, finalement, qu'on nous lâche avec tous ces trucs.
Il a converti et c'est fini.
Non, mais d'accord, arrête avec ta histoire de conversion, ça me boule, ta conversion.
Il s'empêche, c'est tout.
Comment ?
Il s'empêche lui-même. Je crois que c'est Camus qui dit un homme, ça s'empêche, quoi. L'humanité, c'est s'empêcher d'aller vers sa pulsion et de la subir.
Oui, mais ça, on dirait, excuse-moi, c'est on dirait le cardinal Barbarin, je veux dire. On dirait Camus et Barbara en même temps, je veux dire. Nous, on est des juifs ici, on est dans la réalité.
Et pourtant, le vidouille, on est obligé de repasser par la même situation. Comment on fait alors?
Oui.
Et si on a talmudisé le Talmud, et si c'est par crainte, non, pas par crainte, tu reviens de ne pas l'avoir fait. Ouais.
regardez, mes amis, moi je propose la chose suivante. Parce que ici, ça me ressemble un peu. En vérité, il sait que ça fait du mal. Il sait que ça va faire du mal. Il va faire du mal à lui, il va faire du mal à la fille. Ils vont faire du mal. Ils vont faire du mal à sa relation à Dieu. C'est pas bien. C'est tout ça. Il sait. Mais le problème, c'est qu'il ne peut pas s'arrêter. Je pense que si c'est une parabole de chacun d'entre nous, que chacun d'entre nous, on est embringué. C'est vrai, je vais prendre un peu des trucs un petit peu psychologiques comme ça. Qu'on sait que les névroses, chacun, on a des souffrances. La plupart des gens ont des souffrances. Mais les souffrances, on pourrait faire des choses pour changer, mais on ne veut pas changer, on ne peut pas changer. Vous savez, vous connaissez l'histoire, il faut combien de psychanalystes pour changer une ampoule qui a claqué? Combien il faut de psychanalystes pour changer une ampoule? Vous savez, madame, oui. Il faut un seul psychanalyste, mais il faut que l'ampoule veuille changer. Eh bien, c'est le sujet, en vérité, me semble-t-il. Ça veut dire que nous, on est dans des choses dans lesquelles on est embringué. Et ça fait du mal, on se fait du mal. On sait que ça nous fait du mal. On sait. Mais, on ne peut pas changer. On ne veut pas changer. Pourquoi ? Parce que même si ça nous fait du mal, ça nous donne une force. Ça nous donne un maintien. Dans la vie, on a l'impression, peut-être erronée, qu'on a besoin d'un maintien. Ça nous permet... On connaît. On se fait du mal. Mais ce truc pas bien dans lequel on fait, et on sait que c'est pas bien, eh bien, c'est ce qu'on connaît. C'est nos réflexes conditionnés nous mettent dans la poisse. Mais quelqu'un te dit, tu sais, il faudrait peut-être que tu en parles à quelqu'un, ou je sais pas quoi, tu demandes un conseil. Mais je sais pas où je vais aller, je peux pas changer, puisque je connais que ça. Je peux pas changer. Je ne connais que ça. Ici, c'est la même chose. Lui, il est dans cette circonstance, lui et elle, ils sont dans cette circonstance, ils savent qu'ils se font du mal, mais ils ne connaissent que ça. C'est un réflexe conditionné. Qu'est-ce qui fait qu'on peut changer? Alors souvent, la crainte, c'est quoi la crainte? La crainte, prenons un exemple. On voit aujourd'hui, il y a les islamistes, ça marche sur la crainte. Comment quelqu'un, le totalitarisme, ça marche sur la crainte? Comment ça se fait que les gens, ils rentrent dans ces systèmes totalitaires? Peut-être même, que quelque part, le judaïsme, une certaine forme de judaïsme, peut être un totalitarisme. Ça peut être une crainte, ça veut dire, maintenant, je suis devenu religieux, c'est une autre névrose. C'est quelque chose qui est horrible, mais qui me donne une tenue. Vous regardez dans tous les totalitarismes possibles et imaginables, il y a des gens, ils dénonçaient les autres. Mais, il y a un livre que je vous conseille. Je ne dis pas que c'est un chef-d'œuvre. Mais je conseille quand même. C'est une dame qui s'appelle Svetlana Alexievitch. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Elle a eu le prix Nobel de littérature 2015. Elle a écrit sur justement le monde soviétique qui s'est effondré. Et c'est très, 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 très bouleversant. Comment des gens bien peuvent dénoncer les autres? Tu rends service à quelqu'un, il te dénonce. Tu as des gens chez toi que, par exemple, je sais pas, des gens très gentils, tes voisins, tu leur rends des services, etc. Ils te dénoncent. Après, mais comment ça se fait? Ça fonctionne sur la crainte. Aujourd'hui, l'islam, ça fonctionne sur la crainte. C'est quoi le truc? c'est que c'est un système. J'ai demandé à un ami, un grand chacham, j'ai demandé, mais comment ils peuvent s'imaginer que faire ces attentats, c'est pour la gloire de Dieu? Comment ils peuvent s'imaginer que faire ces exactions, c'est pour la gloire de Dieu? Vous avez une idée là-dessus? Il m'a répondu de manière très, très... C'est un Rav, il s'appelle Rav Brandt, qui est à Sarcelles. Il m'a répondu du tac au tac, de manière très, très, très profonde. Il m'a dit, parce que pour eux, si Dieu fait peur, c'est que c'est un vrai Dieu. T'as peur ? Je te fais peur ! C'est là que je suis fort. Si je te fais peur, c'est que je suis fort. Mais la peur, c'est la peur te donne une contenance. Mais tu n'existes pas. C'est une illusion. Ça te donne... C'est comme une névrose, c'est comme l'addiction. Il avait une première addiction, il avait une addiction à cette bonne femme. Il sait qu'ils se font du mal. Il sait qu'ils se font du mal. Ils se font du mal, mais il ne sait pas s'arrêter. Alors, tu pourrais dire, par la peur du châtiment, ou la peur de ne pas être dans ce qu'il faut faire. Oui, la peur. Mais la peur... La peur, c'est pas une teshuva. La peur, c'est exactement le même. Tu as troqué ton addiction, ta faute. Tu l'as, t'as troqué ton mal contre un autre mal qui est aussi destructeur. La peur, c'est aussi destructeur. Tu n'existes pas. Tu es soumis à cette peur. Tu es soumis à cette peur. Comment, c'est ça ce que Maïmonide dit. C'est quoi la tchouva? La tchouva, c'est pas quelque chose qui va... Parce que nous, chacun d'entre nous, on a besoin de quelque chose qui nous donne l'impression qu'on existe. La peur nous donne l'impression qu'on existe. La peur nous donne une force. Un Dieu redoutable nous donne l'illusion qu'on existe. Ça, c'est quelque chose. Si vous lisez le livre d'Alexievitch, elle a interviewé beaucoup de gens qui ont vécu l'époque du communisme. Il dit, on regrette le communisme. Le communisme, c'est vrai, il y avait les goulags. Personne n'était libre. Mais on se sentait vivre. On se sentait vibrer. La terreur nous donne l'impression qu'on existe. Ça nous donne une force. Ça nous donne une force. En vérité, même la faute nous donne l'impression d'une force. Parce que on est dans cette... Elle nous donne une contenance. Elle nous donne une contenance. Comment sortir de là? Comment sortir de là? Ça, ce que Maïmonide dit, il y a un phénomène qui s'appelle la tchouva. Il me semble que ce passage de Maïmonide explique le premier passage. On s'est posé la question au début de notre étude. Maïmonide explique... Pas Maïmonide, Maral explique c'est quoi la tchouva. Cinq cœurs brisés, un souffle bas. En vérité, c'est quelque part, c'est arrêter de chercher d'être fort. C'est si tu assumes d'être dans ta simplicité, dans ta petitesse, peut-être tu peux t'arrêter. La faute nous donne une contenance. La névrose, l'addiction nous donne l'illusion qu'on existe. Nous disons qu'on existe, on est là. Mais c'est une illusion. Ne cherche pas à exister. Sois simple. Sois ce que tu es, quelqu'un de brisé. Quand quelqu'un il a des réflexes conditionnés qui font qu'il fait des choses qui ne sont pas bien, il sait que ce n'est pas bien. Peu importe qu'est-ce que ça veut dire pas bien. Mais on n'arrive pas à bouger de là. On n'arrive pas. Parce qu'on a peur que si j'arrête, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire. C'est la peur de l'inconnu. Mais la peur de l'inconnu, c'est la faiblesse. T'as peur d'être faible. Pour sortir, il faut imaginer autre chose. Mais imaginer autre chose, c'est s'exposer. Et bien, s'exposer, c'est ça la tchouva. C'est assumer sa fragilité. Je sais pas. Et bien, ça, c'est ça la tchouva. si je peux me permettre. Quelqu'un, il est engoncé dans quelque chose, mais s'il arrête, il ne sait pas comment il va assumer, comment il va faire. Donc, il préfère continuer, parce que ça, au moins, il connaît. Mais s'arrêter, c'est s'exposer à l'inconnu. Mais s'exposer à l'inconnu, c'est être petit, être faible, être fragile. Eh bien, c'est être en face de son Créateur. C'est ça ce que le verset dit. Rends-toi compte que tu as un Créateur. Si je me rends compte que j'ai un Créateur, c'est quelqu'un qui me donne la vie, qui me donne d'exister. Pas besoin que moi je me donne une contenance, un faux semblant. La crainte, c'est quelque chose qui me donne la force, mais force illusoire. La tchouva, c'est s'exposer à notre petitesse, à un inconnu. Un inconnu, oui.
Au début, vous aviez raccroché à la personne qui venait de demander pardon parce qu'il n'avait pas fait réparation.
Oui.
Mais là, c'est une réparation à deux acteurs. Lui et soi et l'autre. Là, la personne a des chouba, c'est une teshuva qui est centrée uniquement sur la personne elle-même. C'est un changement d'état.
Oui.
Qui ne fait pas lieu, qui ne tient pas lieu de réparation du mal que l'on a fait. Donc c'est une étape préliminaire à une autre étape où ça suffit en elle-même.
Ben déjà, c'est la première étape que cette personne change elle-même. Après, elle verra qu'est-ce qu'elle peut réparer par rapport aux autres. Mais déjà qu'elle-même, elle change, c'est un changement de nature. Voilà. Jean-Pierre, vous avez dit tout à l'heure, un changement de nature, c'est... Et oui, il y a une métamorphose. Mais la métamorphose... Nous, on croit, c'est dans quelqu'un de plus fort. Mais je propose de dire, c'est s'exposer à une fragilité. À inventer quelque chose. Mais inventer quelque chose. Là, pour inventer, il faut s'exposer. Si quelqu'un, il veut être tout le temps sur ce qu'il connaît, tout le temps sur ce qu'il connaît. Alors, il... pourquoi ? Parce que ça lui donne une contenance. Il y en a, par exemple, c'est le rituel. Il y a le rituel. Au Maroc, on faisait la prière, c'est comme ça. Voilà. Pourquoi il y a des gens, ils sont addicts au rituel de la prière ? Ça leur donne une contenance. Ça leur donne un... Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire la prière. Il faut faire la prière. Mais pourquoi ? Il y en a, ils sont psychorigide sur les minagim, parce que ça leur donne une contenance. Mais il y a des moments c'est plus adéquat, c'est rituel. Dans notre tradition, il y a une constance, mais des fois c'est plus adapté. Il y a des communautés, ils ont un certain rite. Des fois, par exemple, la communauté, il n'y a plus des gens de ce rite, il y a des gens qui ont un autre rite. Il faut s'adapter. Pourquoi il y en a On est psychorigide sur tel rituel. Pourquoi ? Ça nous donne une contenance. Toute notre vie, elle est comme ça. Rosh Hashanah, c'est le début de l'année. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire ? Nous, les enfants d'Israël, on véhicule que le monde a été créé. Rosh Hashanah, comme Shabbat, on véhicule que le monde est créé. Que ça veut dire le monde est créé ? Ça veut dire que quelque chose peut commencer. Bereshit, quelque chose commence. De la même manière, l'année commence. Mais l'année commence pas. Il y a des milliards d'années, il y avait la petite Lucie là-bas au Kenya, ils ont trouvé qu'elle a 3 milliards d'années. Qu'est-ce que ça veut dire, l'année, elle commence ? Est-ce qu'il y a un commencement ? Pour un commencement, il faut quelque part s'exposer à commencer quelque chose. Si tu es toujours addict à ce que tu connais, ça ne peut pas commencer. Ça, c'est ça la tchouva. La tchouva, c'est un moment s'exposer à autre chose. Mais quoi ? Je ne sais pas. Donne la possibilité à autre chose. Quoi ? Je ne sais pas. On va voir. Mais si je change, mais je ne sais pas où je vais. Si je change, je ne sais pas où je vais. Ben si, parce que en face de toi, ton créateur, ne te fais pas de soucis. Tu n'es pas tout seul. Tu es fragile. Tu as un créateur. Si toi, tu le prends comme Dieu, effectivement, tu ne dois pas changer. Mais si tu te trouves en face de ton créateur, alors tu peux te permettre d'être petit, d'être ce que tu es, d'être fragile, comme on est, d'être vivant. C'est ce qu'on dit à Rosh Hashanah. À Rosh Hashanah, on dit « Zochenu lechaim ». Toute la prière de Rosh Hashanah, « Donne-nous la vie ». Vous avez déjà entendu parler de ça? Oui. « Donne-nous la vie ». Mais je dirais, de ce que nous étudions là ce soir, est-ce qu'on veut être vivant? La prière, « Zochenu lechaim ». Fais attention à nous, donne-nous la vie. Mais est-ce qu'on veut vraiment être vivant? Ce qu'on veut souvent, c'est être figé, être bloqué. On ne veut pas être vivant. Être vivant, c'est être évolutif, pouvoir changer des choses. Mais changer des choses, il faut casser des fois ce qu'on connaît. La faute nous donne... On sait que la faute, c'est une catastrophe, mais elle nous donne une contenance. Il y a quelqu'un, par exemple, il ne fait pas Shabbat. Fais pas Shabbat. Je sais, ça vous choque hein, ce que je dis. Il faut savoir qu'il y a des gens qui ne font pas Shabbat. Je sais que vous êtes choqués. C'est un cas d'école, mais je sais que là, en fin de soirée, je vous dis un truc comme ça sans vous prévenir. C'est un peu vache de ma part. Mais il y a des gens, rares certes, qui ne font pas Shabbat. Ensuite, tu dis, mais je ne peux pas. Non, tu ne sais pas. Tu ne peux pas. Qu'est-ce que tu en sais que tu ne peux pas? Qu'est-ce que tu sais que tu ne peux pas? Mais j'ai mis tellement de choses en place, je ne peux pas. Mais c'est terrible, tu n'es pas vivant. C'est un exemple, hein, c'est un exemple parmi un milliard d'autres. C'est un exemple simple. Je suis dans un système que je me suis construit. Je ne peux pas bouger. J'aimerais, je ne peux pas. Si tu aimerais, alors tu peux, je ne peux pas. Alors tu vas demander à Dieu qu'il te donne la vie, d'être vivant, mais être vivant, c'est pouvoir bouger. Ah non, je ne peux pas. Bon, ben, fais pas la prière au chacha, dégage. Ça veut dire, vivant, c'est pouvoir bouger. C'est un exemple parmi d'autres. Hein. C'est comme ici, cette femme, il sait qu'il doit parler avec cette femme. Il sait l'exemple du Talmud. Il sait qu'il ne doit pas. Il sait que c'est pas. Il se détruit. Mais il ne peut pas faire autrement. Il l'aime, il ne peut pas faire autrement. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il ne peut pas faire autrement? Mais regarde, peut-être tu peux faire autrement. Peut-être. Mais ça, il connaît. Autre chose, il ne connaît pas. C'est ça la tchouva. Cet epsilon, ça c'est la chose. Tu te retrouves en face de ton créateur. C'est aussi en face de ton créateur que c'est pas toi Dieu. Il y a un Dieu, mais c'est pas toi. Et la crainte, elle nous donne un contenu. C'est pour ça souvent, par rapport à ce que tu disais, comment tu t'appelles ?
Ilan.
Ouais, ce que disait Ilan, c'est souvent la tchouva, dans un premier mouvement, c'est la tchouva par crainte. C'est-à-dire que la tchouva nous donne une contenance, justement. La tchouva nous donne un j'ai fait tchouva, maintenant je suis religieux, ça me donne une contenance. Il y avait une contenance, j'ai une autre contenance. Et c'est encore pas la tchouva gmoura. Tchouva gmoura, c'est enlever cette ira. Bon, voilà mes amis, grosso modo, évidemment, c'est un élément. En tout cas, Kakalosh Baruch Hu nous écrivent tous et toutes, mais c'est Sefer HaChaim, dans le livre de la vie, et qu'on ait la force d'être un petit peu vivant, d'être un petit peu comme les enfants, qui sont les enfants, vous voyez, les enfants, c'est extraordinaire, parce que les enfants, ils bougent, ils sont en mouvement, ils sont en apprentissage. À un moment, malheureusement, on se fige. Souvent, je demande, comment ça se fait que Dieu ne fait pas qu'on est comme des consultants à la défense. Vous voyez qu'on est, tu n'es, voilà, t'as un gosse, tu dis, voilà, assieds-toi, fais tes devoirs. Assieds-toi. Bon, alors tu t'assieds, tu t'assieds. Bon, sors ton cahier. Mais pourquoi Dieu il a fait que les gosses ils sont comme ça? Alors maintenant, tu t'assieds. Mais assieds-toi. Pourquoi Dieu il a fait que les gosses ils sont comme ça? Mais parce qu'ils sont en mouvement, ils sont en apprentissage, ils apprennent, ils évoluent. À un moment, malheureusement, on arrive à s'asseoir. Et il faut, on est plus vivant, quelqu'un je vous fasse qu'on introduise un peu de vie dans notre vie. Voilà, en tout cas, ce qu'on peut souhaiter. Alors, une bonne santé. Le Shanatova Tikatevo Veteratemo. Alors bon, il y a une petite collation sympatoche. Voilà, comme d'hab. Voilà. Voilà, Shana Tova. Oui.
Oui.
Alors ne vous gênez pas, hein, c'est fait pour. Hein.
Tout à l'heure.
Oui.
Votre copain qui vous a si grandement déçu. Votre copain qui vous a si grandement déçu, qui vous a si peiné. Alors l'auditum de l'auditor, c'est quoi?
Ah, ça, c'est une grande question.
Bon, alors.
Ah non, c'est une grande question. On peut faire des études importantes là-dessus.
Ah non?
C'est vrai. L'auditum de l'auditor, c'est la personne, elle a fait véritablement. On doit garder rancune.
Là, elle vous a demandé pardon.
Mais ce n'était pas un pardon. C'est elle s'est pas. Elle n'était pas présente, malheureusement, cette personne.
Mais, bon, je ne sais pas.
Je ne prends pas compte.
Je ne sais pas.
Ça, si ça la personne, on voit. Ça va,
ouais, super.
Oui, mais bon, il faut qu'il y ait une démarche.
D'accord.
Il faut qu'il y ait une démarche.
Une question, est-ce que vous suggérez en fait que les addictions, c'est-à-dire les névroses en fait des habitudes, il faut les prendre par la brisure et non pas par la force, c'est-à-dire vouloir lutter contre. Vous savez, quand on est addictif à quelque chose, on se bat. Est-ce que c'est pas comme faire, vouloir ce que vous avez voulu dire, c'est faire comme quand il y a une tempête, faire le dos rond et attendre que ça passe, c'est-à-dire se briser et laisser passer la violence de la situation. C'est ça que vous avez voulu dire ou pas? En disant, parce que vous avez dit qu'il ne fallait pas se faire.
Il y a plusieurs sortes d'addictions. On a des addictions qui sont terribles.
Hein. L'addiction de face à la femme.
Voilà.
Est-ce qu'il fallait.
Il faut à la limite être
passif.
Ne pas croire qu'on est fort. Voilà.
Donc, si on va par la force.
Nos pulsions sont toujours plus fortes.
Ok, d'accord. On les excite en fait.
Voilà.
Donc il faut être passif.
Voilà.
Il faut lâcher la bride.
Il faut être petit. Voilà.
Pour la laisser passer au-dessus en fait finalement.
Voilà. Ne pas l'affronter.
Voilà, c'est ça.
Frontalement.
C'est exactement ça.
Que tu dis. Très bien.
Voilà, c'est ça. Et ça on peut l'appliquer pour plein de choses.
Absolument.
Vous n'êtes pas là par hasard.
Mais,
vous êtes sur Terre par
quelque chose. C'est le sujet.
Vous avez un message à faire.
C'est... Moi, je fais ça à la Yeshiva. C'est le sujet de Rosh Hashanah, la Tchouba.
En tout cas, le message est passé. Je vous souhaite Shana
Tova
à toute la famille. Une très belle année à tout le monde. Bonne santé sur
bonne
toi
année.
Toute l'année. À toute la famille.
Bonne année.
Ça va, comment vous allez?
Ça va, ouais.